comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On l'espère, vous commenterez cette interview à suivre avec l'un des cofondateurs de Hitch, Teddy Pellerin. Bonjour Teddy.
Bonjour.
Et avec nous, on retrouve mon fidèle compère Olivier Mathieu à l'autre bout du monde ou presque sur l'île de Beauté. Salut Olivier.
Salut Teddy, salut Thomas. Désolé de ne pas être dans ce studio avec vous, mais c'est vrai que la technologie me permet de me joindre comme dans la vraie vie.
Tu avais des bonnes raisons de ne pas être là et tu as, comme toujours, une présentation à faire de notre invité.
Absolument. Alors, je me lance, Teddy, pour pitcher à ma manière ce qu'est Hitch, mais on te demandera de le corriger, évidemment, et puis de réemployer tes propres éléments de langage. Alors, je précise que Hitch, c'est une plateforme de VTC, aujourd'hui, qui avait été lancée en 2013 avec ton cofondateur Mathieu Jacob. Vous avez levé 37,6 millions d'euros en 2019, au départ notamment avec Total Venture, mais ça avait été aussi une levée de fonds qui avait fait un peu parler parce qu'elle était en deux fois, en deux montants différents, et puisque dans la deuxième tranche, un fonds africain, Africa Invest, vous avez rejoint. Ça avait suivi une levée de fonds de 16,5 millions d'euros en 2018, dans lequel il y avait un certain nombre de grands fonds connus du capital risque, Alven, Felix Capital, Invest, mais Via ID aussi, spécialisé dans la mobilité, dans la galaxie de la famille Mullier. Alors, Hitch est essentiellement développé en France et en Belgique, notamment, je crois, Paris, Lyon, Lille, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, peut-être que j'en oublie, avec également des incursions en Afrique du Nord, Maghreb, avec, je crois que vous avez commencé par le Maroc, Marrakech, Casa, peut-être Rabat aussi, tu nous le repréciseras. Également l'Algérie, mais il y avait une stratégie qui était assez affirmée d'aller se déployer davantage en Afrique. Ça serait intéressant que tu nous dises où tu en es, car tu as reconnu que le Covid avait également obligé de resserrer un petit peu les boulons et peut-être de ralentir un petit peu le rythme de déploiement. Je crois que vous avez quand même lancé le Cameroun. Au départ, c'est intéressant de savoir que Hitch, c'était vraiment un lancement avec un positionnement de mobilité urbaine un peu particulier, qui était plutôt finalement du covoiturage courte distance, avec donc des chauffeurs amateurs qui véhiculaient leurs passagers avec leur propre véhicule. Donc, c'était plutôt orienté d'ailleurs banlieue, zone périurbaine et étudiants, là où les transports en commun font parfois défaut et où les taxis peuvent être très chers, voire introuvables. Et ensuite, vous aviez été assez violemment condamné en 2017, ça avait mobilisé la French Tech et tout l'écosystème du digital. Il y a eu beaucoup d'échos dans les journaux, notamment parce qu'il y avait une question autour de ce qu'on peut appeler le travail dissimulé, enfin les revenus générés par des particuliers. Et ça vous avait contraint finalement, et il faudra en reparler parce que c'est un moment essentiel de la vie d'entreprise, à pivoter vers une plateforme de VTC, donc finalement de chauffeurs particuliers, des chauffeurs qualifiés de professionnels. Ce qui est intéressant, Hitch, c'est que c'est aussi une marque qui a un positionnement un peu cool, je mets cool entre guillemets, mais par exemple qui favorise le tutoiement avec le chauffeur au sein de la voiture. Et vous avez également fait plusieurs campagnes de pub assez disruptives, donc ça veut dire que vous avez vraiment un objectif assumé que je trouve intéressant, de créer une grande marque B2C, grand public. Et c'est vrai que quand on reçoit des champions de 40 nuances de Next, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt dans le B2B finalement, et l'ambition d'aller vers le B2C avec un caractère international, c'est relativement original pour être souligné. Je crois qu'aujourd'hui, vous revendiquez 10 000 chauffeurs, peut-être plus. Est-ce que tu es d'accord avec ce portrait brossé en deux minutes?
Je mets un 7 sur 10 et quelques petites approximations, mais dans l'ensemble, c'est pas mal.
Alors, est-ce que tu peux corriger?
Ouais, on va te laisser aller au 10 sur 10.
Non, sur la dernière levée de fonds, donc les leads, c'est KT et ID Invest. Total et Africa Invest sont ont plutôt suivi et ont pas mis beaucoup d'argent comparé aux leads. Donc, je vais quand même rendre hommage aussi aux leads. Donc, je vais me faire taper sur les doigts. Et sinon, non, le reste, c'était pas mal. En Afrique, on est aussi présent en Angola. Pour l'Afrique subsaharienne. On a commencé là-bas il y a maintenant bientôt un an. Et sinon, le reste était assez juste. Hein. C'était pas mal.
L'idée, c'est de parcourir ensemble pendant cette première partie de ton 40 nuances de Next, ce qui a fait la réussite de Hitch. Et donc, on va revenir sur les débuts. Le positionnement du départ hein, était relativement évident, clair, sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Puis, il y a ce procès. Et on va aussi essayer de comprendre comment, aujourd'hui, Hitch se positionne. Pitch or mon pitch. Pitch or mon pitch. Alors, au début, on disait Hitch, c'est du covoiturage, ou on disait un peu plus?
Au début, on ne disait pas que c'était du covoiturage. À l'époque, il n'y avait pas de définition légale du covoiturage. Donc, on expliquait juste qu'on permettait aux jeunes de rentrer chez eux le soir avec des conducteurs qui étaient des particuliers et qui allaient conduire pour amortir une partie des frais de leur voiture. Donc, l'ambition, c'était de finalement créer cette économie dite du partage et de se dire, en fait, quand on propose un bien ou un service de manière occasionnelle, on n'est pas forcément vu comme un professionnel et il doit y avoir une limite entre de l'occasionnel et du professionnel. Donc l'ambition de Hitch était de dire ok, bah, à terme, peut-être on aura une loi qui réglemente l'économie du partage. On dira tant qu'on gagne moins de 5000 euros par an sur les différentes plateformes que sont BlaBlaCar, Airbnb, Hitch, Drivey pour la location de voitures entre particuliers, finalement on est considéré comme un amateur qui fait ça pour amortir ses biens. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc, chaque secteur a été réglementé d'une manière sectorielle. Et du coup, à la fin, le dernier arrivé, qui était probablement le plus problématique d'un point de vue politique, n'a pas réussi à s'en sortir. Mais non, on parlait pas de covoiturage parce que on voyait une distinction entre BlaBlaCar et nous. La loi, à l'époque, n'interdisait pas. En tout cas, on avait le sentiment que la loi n'interdisait pas ce qu'on faisait.
Et si on rentre dans le détail finalement par rapport à BlaBlaCar, qu'est-ce qui qualifie la différence entre du covoiturage longue distance et du covoiturage disons courte distance? C'est ma façon de résumer les choses. Est-ce que c'est effectivement l'usage fréquent, par exemple, qui peut être quotidien, ou est-ce que il y a une autre dimension qui m'aurait échappé?
Moi, j'aurais pensé que c'était le fait que ce sont des déplacements qui sont programmés pour quelqu'un d'autre et pas pour soi.
Exactement, ouais. C'est l'intention de faire le trajet, mais sauf que l'intention, enfin juger l'intention de quelqu'un, c'est assez difficile. Et donc en fait, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas du tout de loi qui encadrait le transport entre particuliers. Et donc quand on s'est lancé en 2013, Uber a lancé Uber Pop en 2014, et forcément, ça a généré quelques tensions. Parce que nous, on avait mis des limites, on opérait que la nuit, on faisait pas les aéroports, et on était vraiment sur la banlieue, le retour de soirée. Puis quand Uber lance Uber Pop, bon, bah, d'un coup, tout le monde a accès à ce type de solution et il n'y a pas de limite, donc les chauffeurs le font comme un job. Donc les taxis réagissent, pas mal de problèmes à ce moment-là, et l'État vote une loi qui était la loi Thévenoud, qui interdisait le transport entre particuliers à titre onéreux. Donc en gros, la première loi explique que le transport, quand on gagne de l'argent grâce à sa voiture, finalement, on n'a pas le droit de le faire. Et donc on n'est pas encore sur l'intention de faire le trajet, on est vraiment sur la notion de rentabilité. Nous, quand cette loi sort, on se dit, bah, en fait, c'est génial. Il y a Uber Pop qui permet à des chauffeurs de gagner autant d'argent qu'ils veulent. Et nous, on a fait une plateforme, on a des limites. En fait, on va pouvoir se défendre pour dire quelle est la notion de partage de frais. Et donc, il s'écoule quelques années. Donc, Uber arrête Uber Pop en 2015 parce qu'ils ont trop de problèmes. Nous, on continue.
De quel ordre ?
Ils ont eu les mêmes problèmes que nous à l'été 2015. C'est en fait l'État, parce que les taxis organisent de nouvelles grèves. C'est vraiment les grèves violentes. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a des voitures qui brûlent, il y a Paris qui est bloqué. Enfin, c'est quand même bien le bordel. Et du coup, l'État interdit les applications de type Uber Pop pour une durée de 6 mois pour trouble à l'ordre public. En fait, parce que les taxis mettent Paris à feu, ça crée du désordre, du trouble à l'ordre public. Donc, on interdit la cause qui est considérée pas les taxis.
Y compris.
Mais, ce sont les applications de type Uber Pop. On ne sait pas vraiment si on est dedans ou pas.
Mais est-ce que, je t'interromps, Teddy, mais est-ce que vous aviez fait l'objet de violence de la part des chauffeurs de taxi malgré tout, même si ce n'était pas forcément le périmètre d'agression, parce que la marque Uber était évidemment un peu emblématique de ce que subissaient les taxis ou ce qu'ils ne voulaient pas accepter. Est-ce que vous-même, vous avez quand même été victime de violence?
Alors, on a eu quelques intimidations, on va dire. Rien non plus de trop violent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le moment où Uber a sorti Uber Pop et que les taxis ont réagi, à ce moment-là, personne ne connaissait Hitch, à part les jeunes qui sortaient. Honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui connaissait. Mais Uber, tout de suite, a une stratégie de défense. Et je leur en, enfin, pour être honnête, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, je ne sais pas que je leur en veux particulièrement. Mais ils ont dit, bah, attendez, vous ne pouvez pas interdire Uber Pop, sinon vous allez devoir interdire Hitch, la gentille petite start-up. Et regardez comme ils sont mignons, vous n'avez pas envie de leur faire ça. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves un peu entre le marteau, qui est le taxi, qui tape le plus fort possible sur l'enclume qui est Uber, et toi, tu es un peu au milieu et tu te fais aussi taper dessus. Sachant que même enfin même il y avait beaucoup de gens, même Blablacar par exemple avait un risque parce que si justement on arrivait à dire que on faisait du partage de frais de la même manière que Blablacar, si on passait tant mieux, mais si on tombait et qu'ils tombaient avec nous, c'était compliqué aussi pour eux. Donc il y avait beaucoup de gens qui avaient
typiquement
un intérêt à nous faire tomber.
T'en parles de ça avec Frédéric Mazella ou
à ce moment-là? Non, mais on en a reparlé depuis.
On en arrive au fameux procès.
Voilà, donc on en arrive au moment où Uber, donc pendant l'été 2015, avant que Uber décide d'arrêter Uber Pop, il y a donc 200 policiers qui sont dépêchés à Paris pour arrêter les chauffeurs Uber Pop et Hitch. Et donc en fait, bah, tous les soirs, nous on a 3 ou 4 chauffeurs qui sont arrêtés et qui sont placés en garde à vue.
On les retrouve facilement parce qu'ils ont des voitures particulières ou...
Alors souvent, je suis désolé, hein, ça va faire très cliché ce que je dis, mais donc ce sont des chauffeurs qui vont aller devant une boîte de nuit, récupérer 2 petites nanas plutôt blanches de peau. Eux, ils sont un peu plus colorés et hop, signal pour la police et la police est devant et les arrête. Donc malheureusement, voilà, je pense que la stratégie était ça, je suis désolé. En même temps, elle avait le mérite de fonctionner. Si l'objectif était d'arrêter des conducteurs Hitch, parce qu'effectivement, nos conducteurs étaient plutôt des banlieues nord et avec pas mal de diversité. Donc du coup, bah, tous les soirs, pendant la première semaine, voilà, on a 3-4 chauffeurs qui sont arrêtés, qui sont placés en garde à vue, avec des gardes à vue assez violentes. Garde à vue, quand même, j'ai regardé après. Une garde à vue, normalement, tu peux en mettre quelqu'un en garde à vue quand tu penses qu'il va soit détruire des preuves, soit fuir à l'étranger. Et la France, désolé, je vais pas me faire que des amis avec ce podcast, c'est terrible, mais la France est le pays d'Europe qui est le plus condamné en Europe pour l'abus de garde à vue, parce qu'on s'en sert comme un moyen un peu répressif. Et donc, du coup, nous, on a des chauffeurs qui sont arrêtés à 22h ou à minuit et qui sont libérés le lendemain à 18h, ce qui est quand même assez violent. Et en plus, a priori, je pense pas qu'ils allaient fuir à l'étranger ou détruire des preuves, c'est des étudiants, etc. Donc nous, bon, le premier jour où ça arrive, on prévient tous les chauffeurs et on leur dit, écoutez, voilà ce qui se passe. Donc si vous conduisez sur la plateforme, il y a un risque. Après, on va contester parce qu'on estime que ce qu'on fait est légal. On n'est pas d'accord, donc on va contester, mais on préfère vous prévenir.
T'as une déperdition de chauffeurs dès le premier...
T'as la moitié des chauffeurs qui arrêtent. T'as l'autre moitié qui pense être plus malin que la police. Donc soit parce qu'ils conduisent principalement en banlieue, ce qui est vrai, pas de contrôle, pas trop de problèmes. Soit parce qu'ils se disent si je me fais arrêter, je dirai aux gens de la voiture, je suis avec des copains. En face, c'est des inspecteurs quand même.
J'imagine que votre plateforme permet aussi de communiquer avec les chauffeurs. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à ce moment-là? Est-ce que vous les alertez? Est-ce qu'il y a une communication de crise un peu interne vers la communauté des chauffeurs et aussi en interne vers les collaborateurs, j'imagine?
Oui, on est hyper transparent parce que, moi, je pars du principe que déjà, c'est une crise. Et soit on n'arrivera pas à sortir de cette crise-là et donc il faudra arrêter. Donc, autant mettre le moins de gens en difficulté. Soit on arrivera à en sortir et on retrouvera les gens avec qui on a été honnête, quoi. Donc, bien évidemment, le but n'était pas de leur demander de conduire ou quoi que ce soit. On a toujours été très transparents, on leur a expliqué ce qui se passait. On a accompagné ceux qui étaient arrêtés et qui nous prévenaient. Et on a essayé de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Après, c'est compliqué parce que tu as aussi un intérêt quand même à garder un certain nombre de trajets parce que c'est quand même ça qui te fait vivre. On n'a pas levé beaucoup d'argent. Mais en même temps, toujours transparent. Après, on n'allait pas non plus fermer la plateforme, quoi.
Donc 50% de chauffeurs en moins très rapidement. J'imagine que c'est 50% de courses en moins globalement à peu près aussi. Donc autant de chiffre d'affaires. Vous aviez l'air insolide.
J'avais une question en plus pour juste avant celle-ci, peut-être Thomas, qui était pendant ce moment de crise précisément, et donc là c'était les conséquences que décrivait Thomas, mais pendant ce moment de crise, les policiers ont également débarqué à votre siège d'entreprise, pas seulement vers les chauffeurs, je crois.
Alors, on a été convoqués, ils sont pas venus, mais bon, on pensait qu'ils allaient venir, donc il y a quelques jours, quelques semaines où j'avais demandé aux gens de travailler chez eux, où on savait qu'on pouvait se faire saisir les ordinateurs. Donc
précurseur au télétravail.
Voilà, il y avait que des ordinateurs perso au bureau. Il y avait un petit tableau Et derrière, il y avait écrit les numéros de téléphone de nos parents avec Mathieu et de nos avocats, au cas où on se faisait embarquer pour qu'on puisse prévenir les gens qu'il fallait. Donc voilà, une période amusante. Et ensuite, on a été convoqué par la police et donc on a été placé en garde à vue. Mais c'est tout début 2016, ça a pris un peu plus de temps. Et donc là, on a répondu à des questions et donc, enfin, aux questions des inspecteurs, parce que c'était, voilà, c'était l'objectif. Et pour le coup, bon, alors, à la fin, l'histoire a malheureusement été condamnée. Mais pour le coup, ça s'est très bien passé. La police était vraiment très, très sympa avec nous. Alors, c'était leur boulot et on n'était pas d'accord sur la définition du transport à titre onéreux. Mais non, très, très bon accueil. Il n'y a pas eu de pression ou quoi que ce soit.
Et une fois que vous êtes condamné, en fait, avant d'en venir aux conséquences business et au pivot, Il y a des amendes à payer, du coup, spécifiques?
Oui, alors voilà, ce qui se passe, c'est donc 2015, c'est la grosse crise où sur l'été 2015, donc on a à peu près 300 chauffeurs qui ont fait une garde à vue, donc assez compliqué quand même à gérer pour une petite entreprise où nous, on est une dizaine de personnes. Mais à chaque fois qu'on se dit, bon, on va arrêter, parce que l'objectif n'est pas non plus d'envoyer 500 personnes en garde à vue, il se passe quelque chose, on dit, bah, finalement, il faudrait peut-être continuer. Donc au début, le premier objectif...
C'est quoi ce qui se passe?
Premier objectif, nous, c'est d'attendre que Uber arrête Uberpop. Parce qu'on se dit, OK,
on va relâcher un peu de pression.
On va voir si ça va relâcher la pression. Donc eux, ils tiennent une semaine. Et au bout d'une semaine, malheureusement, les gardes à vue continuent. Donc là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis là, on crée une cellule de crise, donc avocat, conseil en affaires publiques, conseil en relations presse. Et en fait, on se dit, il faut au minimum qu'on arrive à avoir des rendez-vous avec ceux qui décident et qui demandent aux policiers d'arrêter nos chauffeurs. Parce qu'on ne va pas arrêter avant de leur expliquer qui on est. Parce que nous, on est une toute petite entreprise, on est 10 personnes dans la boîte. Les seuls qui parlent de Hitch à ce moment-là, c'est Uber et les taxis. Donc forcément, le portrait qui est dessiné n'est pas forcément le meilleur.
En tout cas, pas complet.
En tout cas, on explique que Hitch est le Uberpop français. Alors que nous, on veut expliquer qu'on est un acteur d'économie de partage qui permet aux jeunes de rentrer le soir et qui permet surtout pas à des gens d'avoir un revenu. Et donc, pour écrire cette histoire et expliquer cette histoire-là, ça prend un petit peu de temps. Mais donc, on arrive à avoir des rendez-vous à l'époque avec le cabinet de Macron, parce qu'il est à l'économie, où ça se passe bien. Et il nous dit, effectivement, on voit des différences. On va essayer de voir si on peut trouver des solutions. Après, le sujet n'est pas simple. On est quand même sur un secteur qui est très réglementé. Et donc, on finit par avoir rendez-vous avec aussi le ministère de l'Intérieur, parce qu'à l'époque, les taxis dépendent de l'Intérieur et la police aussi. Rendez-vous assez compliqué où les taxis nous expliquent 2-3 jours avant, mais vous n'aurez jamais ce rendez-vous, on va tout faire pour l'annuler, etc. Donc, il y a quand même un peu une tension, mais voilà, on finit par l'avoir et bon, on comprend que voilà, l'objectif est quand même de prendre un petit peu de temps et de réfléchir un peu plus longtemps au modèle de Hitch pour voir si effectivement il faut le laisser passer ou pas.
La vidéo, vous détournez les paroles des politiques pour finalement vous défendre juste avant le procès, c'est à peu près sur ce créneau-là.
Là, on est fin 2015, début 2016, je pense qu'on a réussi à remettre un peu l'église au milieu du village. Donc là, les gens, les journalistes et les décideurs politiques comprennent que Hitch est un acteur différent. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser passer ou pas, mais au moins on voit que ce n'est pas du Uber Pop. Et donc là, les taxis, début 2016, organisent une nouvelle grève, donc cette fois-ci contre Hitch, parce qu'on est le seul encore à opérer, qui est assez violente aussi. Et c'est à ce moment-là où, pour faire redescendre un peu la pression, nous, on est convoqués, on est placés en garde à vue et l'État nous attaque pour exercice illégal de la profession de taxi. Et donc, notre audience est programmée en 2016. Et donc, c'est à ce moment-là après où on sort la vidéo.
On va accélérer un peu, hein, si vous voulez bien. Il y a quand même ce procès qui est essentiel parce que ça va forcément aboutir sur un nouveau positionnement. Vous ne pouvez plus opérer de la même manière. Et du coup, aujourd'hui, Hitch, après ce procès, qu'est-ce que c'est? Comment vous redéfinissez votre positionnement? Qu'est-ce que vous racontez? Quelle histoire vous racontez au grand public et à vos chauffeurs?
En fait, le positionnement n'a pas vraiment changé. Donc, le marché a évolué. Nous, l'ambition à la base, c'était de créer une mobilité plus accessible et plus responsable. En fait, on fait exactement la même chose. C'est juste que quand on a commencé en 2013, le VTC était très haut de gamme. C'était quelque chose qui en était à ses débuts. Donc, si on voulait faire de la mobilité accessible, il fallait le faire de manière différente. Aujourd'hui, le VTC s'est démocratisé. Ça reste quand même encore des populations qui ont quand même pas mal d'argent, hein, qui utilisent des opérateurs VTC. Mais on essaye, nous, petit à petit, de le rendre plus accessible. Moi, je sais que quand j'étais jeune, jamais de ma vie, j'ai pris un taxi quand j'étais étudiant. Donc forcément, je n'avais pas beaucoup d'argent.
Fallait les trouver.
Alors, peut-être fallait aussi les trouver. Mais il y avait aussi ce côté-là, même si on se met à 3 ou 4, finalement, si on avait tous donné 5 euros, j'aurais peut-être pu me le payer une fois de temps en temps. Mais vraiment, j'avais l'impression, enfin, ce n'était pas du tout un réflexe. Je n'appartenais pas à ce monde. Pour moi, c'était quelque chose qui était pour les hommes d'affaires, etc. Et je pense que sur le VTC, ça change un petit peu, mais aussi parce qu'il y a des acteurs comme Hitch qui essayent d'ouvrir un peu ces portes-là. Donc nous, on opère beaucoup plus en banlieue et on essaye d'attirer des gens qui, en fait, vont prendre des VTC de manière peut-être moins fréquente, mais on veut que tout le monde se sente concerné. On se dise, OK, je ne suis pas obligé de posséder une voiture. Clairement, je vais être plutôt transport en commun, etc. Je ne vais pas aller au travail et rentrer du travail en VTC, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si de temps en temps, je sors, etc., et que j'ai besoin d'une voiture, OK, en fait, j'ai ce réflexe-là et je peux le faire.
Ouais. Tu dis, on n'a pas changé. Oui. Peut-être que la mission n'a pas changé, la vision de la marque. Par contre, dans l'opération, ça a forcément dû bouger, ne serait-ce que pour répondre aux demandes de la loi, j'imagine.
Oui, bah, c'est sûr qu'on est condamné. En fait, d'un coup, on n'a plus de chauffeur, on n'a plus de trajet, on n'a plus grand-chose. On a des amendes à payer, 600 000 euros pour te répondre, Olivier. Et donc, du coup, on doit redémarrer. On a quand même une base de passagers. Alors, on ne sait pas s'ils vont vouloir basculer sur du VTC. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout tous basculé. On a dû aller en chercher des nouveaux. Et on a aussi, on doit retrouver des chauffeurs. On a une technologie qu'il faut adapter, mais on doit retrouver des chauffeurs. Donc, on arrive à le faire au début parce qu'on a des chauffeurs qui étaient devenus VTC via Hitch. On avait beaucoup, en fait, qui avaient testé Hitch. Et nous, quand ils atteignaient 5 000 euros par an, on les envoyés vers des organismes de formation VTC où c'était aussi un moyen de faire de l'insertion professionnelle. Donc, il y avait des choses assez positives. Et donc, on redémarre avec eux et puis on arrive à trouver des nouveaux passagers et à faire des trajets relativement rapidement. Donc, c'est bien. Mais du coup, on démarre tellement vite qu'on ne se pose pas trop les questions de savoir si, effectivement, quelle est la mission, quelle est la vision, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé. Parce qu'on redémarre tellement vite, parce qu'on n'a pas le choix, on a 60 employés à ce moment-là, on n'a pas d'argent, on n'a plus de revenus, donc il faut quand même aller assez vite. Et donc, on ne se pose pas trop ces questions, et c'est pour ça qu'après, 2-3 ans après, je pense qu'on a dû à un moment se reposer et se dire, OK, ouais, pourquoi on est là, ouais. Le fait de rendre la mobilité plus accessible et responsable, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, non. Donc, sur l'accessibilité, oui, et sur le côté responsable, nous, on l'avait fait que la nuit pour vraiment pas perturber le marché des taxis, etc. Là, en fait, il y a une nouvelle mission qui est 10 fois plus importante et bien plus intéressante qui s'est ouverte. C'est qu'en fait, le marché du VTC, c'est un marché qui est très critiqué et critiquable aujourd'hui parce que les plateformes n'ont pas forcément bonne réputation. La gig economy, c'est pas quelque chose qu'elle vend en poupe, notamment sur le fait que finalement, il y a une disruption technologique qui va bénéficier aux plateformes, aux passagers, mais pas aux chauffeurs.
Justement, pardon, je te coupe, et je sais qu'Olivier voulait poser une question. Je reste juste dans ce sujet-là. On parle beaucoup d'Uberisation. Votre dernière campagne de pub, c'est la Hitcherisation. C'est quoi l'Hitcherisation?
Justement, on ne parle pas de Hitcherisation parce que l'objectif de Hitch, c'est de faire en sorte qu'on ne laisse personne sur le côté.
L'Hitcherisation pourrait être une manière très louable changer les codes.
Voilà, ça fait un peu penser à l'ubérisation. Ouais. L'objectif de la campagne, c'est de dire on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Parce qu'effectivement, on essaye d'intégrer tout le monde dans cette innovation technologique et de faire en sorte que les chauffeurs en bénéficient aussi. Donc, on a un acteur qui, effectivement, travaille beaucoup plus avec les chauffeurs, avec les syndicats, pour essayer de changer sectoriellement les plateformes et d'avoir un marché beaucoup plus sain.
Moi, j'aurais voulu effectivement préciser un peu le point de la mission parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises à mission, donc du coup d'impact social, d'impact environnemental. Et ça semble être dans l'ADN de Hitch dès le départ. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à vous différencier des acteurs américains, d'ailleurs, ou européens de VTC? Qu'est-ce qui fait que dans la modalité, à partir du moment où on devient un chauffeur VTC, enfin professionnel, auto-entrepreneur, formé et donc certifié pour pouvoir prendre le volant d'une voiture et transporter des passagers, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de différent chez Hitch, au-delà de la mission telle que tu l'as décrit dans le concret, dans le business model? Est-ce que c'est une meilleure rémunération des chauffeurs? Est-ce que c'est d'autres services qui accompagnent à la fois les chauffeurs et les passagers? Qu'est-ce qui est active en fait cette mission?
Ouais, donc bon, y a pas mal de choses, mais je pense les deux plus importantes, c'est parce qu'effectivement, on est sur un marché où donc les chauffeurs conduisent sur toutes les plateformes, les passagers peuvent aller de plateforme en plateforme, et la mobilité, ça reste quand même plutôt une commodité. Donc, c'est quand même assez compliqué de créer de la différenciation et de créer une marque forte avec de l'émotion. C'est pas si simple. Néanmoins, je pense qu'il y a deux choses importantes pour les chauffeurs et les passagers. Donc, Hitch arrive aujourd'hui à être très proche de la rentabilité. Je pense qu'on l'atteindra d'ici fin d'année ou l'an prochain avec 15% de commission, là où Uber en prend 25%. Donc, en fait, on arrive à finalement à être rentable sur un marché en prenant 10% de commission au moins. qui nous donne un petit peu de gras, qu'on peut donner soit côté passager, soit côté chauffeur. Donc généralement, on a tendance à le donner un peu plus côté passager, donc ce qui fait que pour les utilisateurs, on est moins cher. Donc c'est l'argument premier hein, pour utiliser Hitch, c'est que finalement, on est moins cher, alors qu'en plus, on traite mieux les chauffeurs, ce qui est quand même important et plutôt quelque chose d'assez vendeur. Et ensuite, côté chauffeur, donc vu qu'on prend des commissions plus basses, on est un tout petit peu plus rentable, mais grosso modo, on le donne quand même plutôt côté passager. Par contre, en tant qu'acteur local, c'est vrai qu'on crée finalement un environnement qui est beaucoup plus familial pour les chauffeurs. Et il y a, ça fait un moment, mais il y a quelques années, la première fois, on avait fait une étude avec les chauffeurs VTC. Ce dont ils se plaignaient le plus et ce qui était le plus dur, c'était la solitude. Ce qui m'avait beaucoup surpris, parce que je pensais que ce serait la rentabilité ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vrai que c'est un métier qui est dur, parce que souvent on travaille le soir, la nuit, c'est fatigant. On fait des longues journées, des longues semaines. On gagne pas toujours non plus forcément très très bien sa vie. Et en plus, on est tout seul dans sa voiture. Donc Hitch, de ce point de vue-là, vraiment essaye de créer cette communauté de chauffeurs, d'être toujours disponible, d'être toujours présent. On est l'acteur français, nos bureaux sont à Paris. Les chauffeurs, ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent venir nous voir. Moi, je fais beaucoup de live Facebook, je rencontre beaucoup de chauffeurs et tout le monde connaît mon adresse mail, etc. Donc, c'est pas pareil. Uber, ça fait un peu une boîte noire. Hitch, on peut quand même mettre un visage dessus. En tant que chauffeur, on a l'impression on sait qu'on connecte un peu plus. Et au-delà de ça, derrière, bah, du coup, on va un peu plus loin. On travaille beaucoup avec les syndicats pour dire, OK, si on veut que l'ubérisation ou l'hitcherisation se passe bien, il va falloir changer un certain nombre de choses sur le marché. Il va falloir parler des prix minimums, il va falloir encadrer les prix, il va falloir encadrer le nombre de chauffeurs, il va falloir faire un certain nombre de choses. Et ça, on est la seule plateforme à le faire. Donc forcément, ça crée aussi un attachement qui est différent.
Et du coup, vous êtes entre les plateformes de VTC un peu ancienne mode, enfin qui ont ouvert le marché, mais qui ont souvent cet impact social un peu critiqué, disons, et puis Hitch qui apporte une nouvelle valeur. Est-ce que du coup, vous êtes réconcilié avec les lobbies du taxi aujourd'hui ou est-ce qu'il y a toujours des tensions fortes, voire des risques juridiques?
Alors, des risques juridiques, moins. Non, par contre, il y a toujours des tensions fortes parce que les taxis et les VTC ne s'aiment pas trop. Enfin, surtout, les taxis détestent les VTC. On va le faire plutôt dans ce sens-là. Et donc, par exemple, en ce moment, il y a le projet de piétonnisation de Paris où les taxis donc, font partie des ayants droit, donc pourront circuler dans les 4 premiers arrondissements. Les VTC, aujourd'hui, ne font pas partie de cela. Donc, il y a toujours cette petite guerre. Et politiquement, ça a l'air d'être un terreau très fertile de se dire nouveau monde, ancien monde. Donc, il y a beaucoup de politiciens qui disent soit je vais défendre les taxis, soit je vais défendre les VTC, parce que ça permet de figer un peu des positions politiques.
C'est compliqué en tant qu'entrepreneur de se retrouver au centre de sujets qui dépassent parce que ça devient politique.
C'est compliqué parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a peu de poids et on sait qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça ne dépend pas vraiment de nous. Donc forcément, ce n'est pas évident. Après, nous, on l'a vécu aussi comme une expérience. Enfin, moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé créer une boîte déjà. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé créer une boîte qui, derrière, me fait rencontrer des députés ou des ministres ou des trucs comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi, quand on y pense. Du coup, voilà, moi, je l'ai vu aussi comme une expérience. Et c'est vrai que ce soit Mathieu ou moi, je pense qu'on a créé...
Mathieu, ton associé.
Ouais, Mathieu, mon associé. Je pense qu'on a créé une boîte en se disant au début, de toute manière... Vu ce qu'on fait, elle va planter, quoi. Et c'est pas grave. Et si elle plante un jour, c'est pas la fin du monde. On le fait pas pour l'argent. Donc, au pire, c'est juste une boîte, quoi. Au pire, je referai autre chose de ma vie. J'ai la chance d'avoir fait plutôt des études qui sont bien valorisées. Donc, je sais que je trouverai un job demain si j'ai besoin. Je suis pas en danger, quoi.
On reviendra sur un futur potentiel. Je reste sur le business. On a évoqué le positionnement. Je sais qu'Olivier voulait beaucoup parler du développement en Afrique et c'est un vrai sujet et un vrai enjeu pour Hitch aujourd'hui. Juste comme on est dans ce monde des VTC, et c'est un sujet dont on parle souvent aussi dans 40 nuances de Next, c'est la question des propositions de rachat. Est-ce que je dévoile un secret? À la limite, tu me diras oui et je me tairai à ce moment-là si on parle d'une offre de rachat que vous avez eue.
Alors, c'est effectivement... je pense que pas grand monde n'est au courant. On dira pas qui, mais en 2016, on avait une offre de rachat. On n'en a pas eu depuis et l'objectif n'est pas de vendre Hitch dans l'immédiat. Moi, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique. Ouais.
C'est un acteur du marché?
Un acteur du marché. Le pire, c'est qu'il y avait une journaliste qui m'avait appelé et à ce moment-là, et qui, donc c'est juste avant le procès. et qui me dit « Teddy, j'ai eu vent de cette offre-là ». Et je lui dis « Non ».
Avec cette voix-là ou...
Non, peut-être, probablement un peu mieux. Elle me fait « Si ». Et je lui dis « Bon, écoute, je vais te parler franchement. Honnêtement, si tu sors ça maintenant, je pense qu'on est mort. On est à quelques semaines de l'audience. S'il y a un journaliste qui commence à publier qu'on peut se faire racheter par un concurrent, mais les mecs, ils vont nous allumer. Nous, on essaye de vendre l'histoire. On est une petite start-up française qui est en train d'aider les jeunes à sortir le soir. Et là, tu me mets dans les gros titres qu'en fait, on a des propositions de rachat. Donc, je lui ai dit, s'il te plaît, n'en parle pas. Et elle ne l'a pas fait. Donc, c'est vraiment hyper propre, hyper propre et sympa de sa part. Et c'est jamais sorti.
Jusqu'à aujourd'hui, mais il y a prescription.
Ça, voilà, on ne dira pas qui c'est.
Ouais, on ne dira pas qui c'est.
Et au-delà de cette opportunité qui était effectivement un peu bizarrement placée en termes de calendrier dans l'histoire de Hitch, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté stratégique des fondateurs, de tous les fonds d'investissement qui vous ont rejoints et qui vous ont aussi soutenu dans le développement après le pivot? Est-ce qu'il y a une volonté de sortie ou d'exit? Parce que c'est un sujet qu'on aime bien aborder dans 40 nuances de Next, qui est de savoir, est-ce qu'il y a une ligne d'horizon? Est-ce que l'objectif, c'est de revendre la société? Est-ce que c'est de faire une introduction en bourse? Est-ce qu'il y a un projet au-delà du développement commercial qu'on va encore développer aujourd'hui?
Oui, c'est sûr qu'une entreprise comme Hitch, moi à titre perso, j'aimerais bien pouvoir continuer et si je peux faire ça pendant des années et des années et devenir le monsieur Rousselet du VTC, pourquoi pas quoi, ça peut être assez intéressant. Après on est sur un marché.
Qui est monsieur Rousselet?
C'est le président de G7.
Mais c'est bien de le dire.
qui est une grande famille de taxi. Mais voilà, mais on sait qu'on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des acteurs où Hitch a levé donc en tout à peu près 50 millions d'euros. On est sur un marché où il y a des acteurs qui ont levé plutôt quelques centaines de millions d'euros comme Bolt, Freenow, etc. ou plusieurs milliards d'euros comme Uber. Donc voilà, on n'est pas leader de notre catégorie. Donc demain, si ça commence à consolider et que les gros se rachètent entre eux et deviennent tous des géants, nous, on a un moyen. Un moyen face à des gros, tu t'en sors. Un moyen que face à des géants, jouer le rôle du dernier village gaulois Astérix, etc. On n'a pas non plus de potion magique, quoi.
Donc, une petite fronde.
Voilà. Donc peut-être qu'on devra consolider et probablement nos actionnaires, à un moment, seront contents si ça se passe. Après, s'il y avait un play où on peut rester indépendant et on arrive aussi à faire sortir nos actionnaires, parce qu'à un moment, ils veulent sortir et pour les remplacer par d'autres, moi, je l'étudierais aussi. Ce serait assez amusant. Mais je ne suis pas sûr que sur ce marché, ce soit possible. Donc, on verra, à moins qu'on grossisse très vite sur les prochains mois, ce qui est possible.
Tu parles de regroupement. Est-ce que c'est un marché sur lequel il y a encore de la place pour de nouveaux entrants avec un nouveau positionnement?
Il faut avoir beaucoup d'argent. Là, il y a des rumeurs sur le fait que Didi, qui est le concurrent de Uber, au mondial, qui est un acteur chinois et qui s'est très bien développé aussi en Amérique latine. Donc là, ils ont ouvert en Russie et ils parlent pas mal de Londres et de Paris. Eux, ils peuvent venir. Voilà, ils vont mettre des centaines de millions d'euros chaque année, donc ça peut le faire. Là, commencer à zéro, c'est compliqué.
L'argent, il sert à quoi? Il sert à trouver d'abord les passagers?
Ouais, c'est des subventions côté passagers, des bonus côté chauffeur.
Certains veulent conquérir l'Europe, d'autres veulent conquérir l'Afrique, Olivier?
Oui, c'est vrai que alors ça peut être aussi le moment presque de rentrer un peu dans notre petit jingle sur le confinement et le monde d'après, parce que ça a été, je crois que cette stratégie de déploiement international a été un peu ralentie, même si elle reste une réalité opérationnelle.
Alors tu l'as rencontré à son bureau, il est venu tourner un jingle chez nous.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
On a compris un peu l'impact qu'avait pu avoir la crise sur toute l'économie numérique et notamment évidemment en particulier quand tu travailles dans le transport, hein, parce que forcément après avoir subi cette crise associée à la justice entre dans les années 2016-2017,
qui qualifiait d'ailleurs de plus grande que le Covid pour Hitch.
Ouais, c'était un tremblement de terre important, mais malgré tout, effectivement, l'année 2020, même si vous aviez levé des fonds, a été compliqué pour tous les acteurs du transport en général, parce qu'à un moment donné, on pouvait plus se déplacer. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Et je crois que tu l'as dit en toute transparence, qui est tout à ton honneur, ça a ralenti un petit peu votre déploiement international. Donc, qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, en fait, au moment du Covid, bon, il n'y a pas trop de visibilité sur combien de temps ça va durer, etc. Donc, mes investisseurs m'ont fait rire à ce moment-là parce qu'ils m'ont dit bon, on attend de voir ton plan et puis on va le transmettre à d'autres de nos startups parce qu'on sait que tu gères bien les crises. Je dis oula, je sais pas, moi j'ai jamais fait celle-ci non plus. Mais globalement, on s'est remis un peu en mode crise et effectivement, on avait quand même un petit peu d'expérience. Donc, l'objectif, vite, on s'est dit ok, même si ça dure 2 ans, il faut qu'on sorte de là en étant tranquille, sans pouvoir être trop à risque. Donc forcément, des nouveaux pays où on sait que c'est beaucoup d'investissements au début et que ça prend du temps d'aller chercher de la rentabilité même locale, ça devient un peu moins une priorité. Donc on a recentré un petit peu sur les pays qui fonctionnaient bien. Donc on a effectivement arrêté le Cameroun à ce moment-là. On a quand même lancé l'Angola pendant le Covid, puisqu'on l'a lancé donc en 2020, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Mais on s'est dit ok, en fait, on est obligé d'aller chercher des pays en Afrique où on peut devenir opérer, rentable ouais. relativement vite. Voilà, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des pays où il faudra attendre 5 ans avant d'être rentable parce que là, il faut faire un peu plus attention au cash et on recentre.
Et qui, eux, ne sont pas confinés en plus. Enfin, voilà, c'était l'occasion aussi de...
Ouais, mais c'est juste qu'en Afrique, sur certains pays, notamment le Cameroun, vu qu'on en parlait, vu qu'on faisait de la moto-taxi, les prix des trajets sont vraiment très, très petits. Donc, avant de pouvoir être rentable, c'est quand même compliqué. Donc, on a recentré sur les marchés où, en fait, on pouvait faire du VTC. Donc, voilà, où on est avec des voitures, avec 4 roues. Il y a une réglementation qui permet de travailler avec des chauffeurs qui sont des particuliers, qui commencent à payer des taxes et qui deviennent des VTC, et sur lesquels le prix des trajets va être plutôt à 2-3 euros qu'inférieur à 1, quoi.
Donc, en gros, si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs pour regarder le continent africain, qui est souvent un peu sous-estimé, probablement dans le domaine des startups, tu regardes effectivement avant tout le niveau de développement économique en regardant les infrastructures notamment?
Alors nous, on regarde 4-5 paramètres. Le premier, c'est l'ADN un petit peu commun avec le pays. Dans le sens où, moi, à un moment donné, je vais être en concurrence face à Bolt, face à Uber, face à Didi, face à d'autres. Donc, il faut que j'arrive à voir si je peux mieux connecter avec la population locale pour créer un acteur un peu moins global. Je crois beaucoup à cette stratégie d'être l'acteur local. Et donc, ce qu'on fait quand on va dans des pays africains, moi, le premier truc, c'est que je vois si j'arrive à avoir un partenaire local. Comme ça, j'apporte la touche globale. Avec l'expérience, la technologie, etc. Mais je le fais avec une entreprise locale qui va
fait
aussi...
quoi?
En gros, ils font
c'est
plusieurs choses.
C'est la com,
choses,
mais c'est le déploiement.
C'est voilà. Donc souvent, on fait une JV où ça, on reste tout le temps majoritaire, mais donc voilà. Mais on a un partenaire local qui est aussi actionnaire de la boîte sur place. Et donc souvent, on leur demande effectivement de nous apporter la compréhension politique, donc de faire en sorte qu'on puisse avoir une réglementation qui est adaptée, de pouvoir s'adapter sur le marché et de pouvoir entre guillemets nous expliquer aussi. Quels sont les usages, les règles, comment il va falloir qu'on fasse, etc. Parce que forcément, chaque pays est différent. Et souvent, ils amènent aussi donc soit déjà une communauté de chauffeurs, soit effectivement une communauté de passagers, mais pour démarrer un petit peu plus vite. Vu qu'on est un acteur qui a quand même levé aussi moins d'argent, moi, je préfère donner un peu du capital pour accélérer et avoir moins à investir plutôt que l'inverse. Surtout si le partenaire local décide de co-investir, où là, pour le coup, en plus, on est bien aligné et ça permet d'avancer assez sereinement sur ces pays-là.
Je t'ai coupé dans tes 5 paramètres.
Non, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le premier était le plus important. Le conseil que je pourrais donner, s'il y a des gens qui veulent aller en Afrique, parce que ce sont des marchés qui bougent vite, où c'est d'un point de vue réglementaire, ça peut aussi changer. Donc, ça peut être des marchés à risque. Je pense que c'est intéressant d'avoir un partenaire local. Après ça dépend du niveau d'ambition, si on veut être dilué, pas dilué, etc. Mais nous, en tout cas, c'est ce qui a fait qu'on a bien réussi sur les 3 pays où on est, sachant que les 2 qu'on a testés et qu'on a fermés, donc c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on n'avait pas de partenaire local. Donc il y a quand même une trend.
Est-ce que quand vous lancez ou vous ouvrez un pays, notamment en Afrique, est-ce que vous êtes le premier opérateur de VTC? Ou est-ce que en fait il y a déjà des acteurs soit locaux soit internationaux qui sont implantés, ou est-ce que c'est pas un facteur finalement très très impactant dans la décision?
Oui, alors voilà, c'est les autres paramètres qu'on regarde, ça va être effectivement la taille de marché, la concurrence, et s'il y a de la concurrence, comment on peut se différencier.
C'est plus simple d'y aller quand il y a une concurrence parce que le principe est installé, ou au contraire, ça veut dire qu'il va falloir se bagarrer un peu plus?
Alors, si nous au Maroc, il y avait déjà Uber et Karim. Et après, il n'y a eu que Karim. En Algérie, il y avait beaucoup d'acteurs locaux, dont un qui avait déjà éduqué le marché et très belle croissance, très beau succès algérien. C'est la plus belle start-up algérienne. Et donc, forcément, ça permet d'ouvrir un petit peu la réglementation.
Qui s'appelle
Yassir. Donc ça, c'est probablement le marché le plus intéressant parce que tu viens sur un marché où il n'y a pas des géants, mais d'un point de vue réglementaire, a priori, ça va plutôt bien se passer parce que tu as un acteur local à défendre. Et ensuite, donc en Angola, il y avait des acteurs locaux, mais vraiment tout petits, qu'on a dépassé très vite. Donc, on peut considérer qu'il n'y avait personne. C'était un marché vierge. Donc, on a fait les trois. Alors, le plus intéressant à terme sera peut-être l'Angola, parce que du coup, tu es leader. Et si tu prends suffisamment d'avance, tu peux le rester même quand les gros arrivent. Mais l'Algérie, quand tu as des acteurs locaux qui ont déjà un peu éduqué le marché, même s'il y en a un qui émerge et qui reste leader, tu peux facilement venir prendre des parts de marché, devenir un joli numéro 2. Donc, c'est ce qu'on a fait et ce qui est plutôt pas mal. Ouais.
I have a dream. Alors, le monde d'après, Teddy, c'est I have a dream, évidemment, Martin Luther King. Quand tu te projettes un peu dans ce monde d'après, alors le monde d'après, c'est le monde d'après Covid, et puis finalement, aujourd'hui, on peut inclure plein d'autres dimensions qui ont changé probablement assez profondément les consommateurs que nous sommes dans le rapport aux actes de consommation et donc au transport, à la mobilité. Comment est-ce que tu vois le paysage urbain, toi, se développer? C'est une question un peu vaste, mais je trouve ça intéressant d'avoir la vision d'un entrepreneur qui a su traverser déjà au moins deux crises importantes. Comment est-ce que tu vois ce paysage urbain se développer? Parce qu'il y a des élections politiques, des hommes politiques, des femmes politiques qui prennent des positions sur les infrastructures, par exemple le développement du vélo en ville, des mobilités douces, des trottinettes, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose une ligne de stratégie qui se lit et qui est lisible pour Itch?
Oui, alors je sais pas si... Je pense que les gens reviennent très vite à leurs anciennes habitudes. Donc, on va voir aussi comment ça évolue et si effectivement les nouveaux comportements perdurent. Après, sur la partie mobilité, sur la partie urbaine-ville, c'est sûr qu'on va de plus en plus, à mon avis, vers un abandon de la voiture à titre individuel et où, du coup, il faut un mix de mobilité avec de la mobilité douce, type vélo, etc.
Ce qui ne serait pas un problème pour Itch.
Ce qui n'est pas trop un problème pour Itch, qui est même plutôt bien, pour deux raisons. D'une part, parce qu'en fait, quand on abandonne sa voiture, de temps en temps, on a quand même besoin d'une voiture, donc on doit prendre un VTC. Et en fait, nous, on est plutôt sur cet usage qui est moins récurrent que certains utilisateurs qui vont au travail et qui rentrent tous les soirs en Uber ou en taxi. Donc nous, on n'a pas trop ça. Donc pour nous, c'est bien, c'est plutôt aligné avec ce qu'on veut faire. Et en plus, nous, on fait 80% de nos trajets et qu'il faut intervenir à la banlieue. Donc on est beaucoup sur finalement la banlieue et pas trop sur le Paris intramuros. Donc donc je pense que le monde va continuer d'évoluer comme ça. Et sur la partie VTC, pour en parler un peu plus spécifiquement, normalement, c'est un marché qui peut beaucoup plus facilement adopter le véhicule électrique. Parce qu'en fait, on a des chauffeurs qui conduisent 250 km par jour, plutôt en ville. Donc, ils peuvent tenir sur une recharge et qui vont changer leur voiture assez régulièrement parce qu'ils font énormément de kilomètres. Et du coup, c'est assez bien adapté finalement à la poussée du véhicule électrique. Donc, s'il y a de l'ambition politique, s'il y a un accompagnement là-dessus et des aides, je pense que le marché du VTC va basculer sur l'électrique.
Tu parles des chauffeurs, tu parles du politique. On a une question de notre partenaire Madinès avec sa journaliste Anne Taffin. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Bonjour. La justice britannique a récemment reconnu les chauffeurs Uber comme des travailleurs salariés. Est-ce que vous craignez un jour une telle qualification de vos chauffeurs et quelles seraient les conséquences pour votre société?
C'est une bonne question. Alors, Uber aussi a été condamné en France. Il y a un arrêt de la Cour de cassation qui requalifie un chauffeur comme un salarié. Souvent, ce genre de procès, ils arrivent maintenant, mais donc, du coup, ce sont plutôt des procès qui ont démarré en 2015-2016, quelque chose comme ça, et où les règles sur Uber étaient quand même assez différentes. Et effectivement, elles ont quand même plutôt évolué un peu dans le bon sens. Et à l'époque, quand on regarde le droit, il n'y a pas trop de doute sur le fait que les chauffeurs sont des salariés assimilés. Aujourd'hui, s'il y avait un chauffeur, enfin, on le verra, hein, parce que des chauffeurs qui attaquent, il y en aura d'autres. Si un chauffeur attaque, est-ce qu'il gagne encore? Il y a aussi eu pas mal de cas où les chauffeurs n'ont pas gagné.
Quand un attaque, c'est pas d'office, du coup, pour l'ensemble des...
Non, parce que chaque cas est différent. Par exemple, dans l'arrêt de la Cour de cassation en France, le chauffeur Uber louait une voiture via un partenaire. Et c'était Uber qui payait le partenaire. Donc, il fallait que le chauffeur conduise suffisamment sur Uber toutes les semaines pour pouvoir payer le partenaire et pour, payer la commission de Uber. Donc, du coup, là, il y a des faisceaux d'indices qui sont différents. Aujourd'hui, peut-être que Uber ne fait plus ça. Donc, chaque cas est quand même différent. Moi, quand je lis le droit, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, aujourd'hui, un chauffeur sur Itch peut décider de conduire quand il veut sur Hitch, on ne le pousse pas, on ne le pénalise pas s'il ne conduit pas, on ne le pénalise pas s'il refuse des trajets, etc., etc. Donc, je pense que, en vrai, normalement, il doit être considéré comme un indépendant. Le seul risque, probablement, est sur le prix. Ou en fait, sur une plateforme comme Hitch, vu qu'on est sur du temps réel, donc la plateforme choisit le prix, ce qui est... peut être considéré comme aussi un indice sur un lien de subordination. Et donc, du coup, souvent, on dit qu'un indépendant doit pouvoir choisir ses prix. À mon avis, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura des marchés un peu plus réglementés où les prix peuvent être décidés par de la régulation, ou en tout cas un encadrement des prix par de la régulation, comme c'est le cas sur du taxi. Sur du VTC, je pense que ça arrivera, il y aura des prix minimums, parce que sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir pour les chauffeurs. Et à partir de là, une fois qu'on a défini l'heure de jeu dans laquelle on peut tout jouer et que c'est sain, normalement, on n'a pas censé, on n'est pas censé avoir de requalification parce qu'on on fixe les prix, mais dans une aire délimitée.
Si jamais les chauffeurs fixaient eux-mêmes leurs prix, est-ce qu'à ton avis, ce serait pas plutôt l'inverse qui se passerait, c'est-à-dire que ce serait la course au moins cher pour être sûr et certain d'obtenir des trajets?
Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne solution sur ce marché-là. Là, on a eu un acteur qui, on va pas le nommer parce que je veux pas les critiquer, mais qui a décidé de baisser ses prix minimums. Donc, nous, on est à 7 euros de prix minimum. La plupart des acteurs sont à 6. Il y en a un qui s'est mis à 5 pendant la crise Covid. Et en fait, il a dit « Non, mais vous n'êtes pas obligé. C'est une option. En tant que chauffeur, vous pouvez être sur cette offre ou sur l'autre qui était à 6 ou 7 euros. » Et
ça,
vous avez le choix.
C'est pour les petits trajets.
C'est pour les petits trajets. C'est vraiment le prix minimum. Et en fait, la plupart des chauffeurs vont sur l'offre parce qu'ils ont envie d'avoir plus de trajets. Donc, si on n'encadre pas les prix et si effectivement, on laisse les chauffeurs...
Excuse-moi, quand ils baissent le prix minimum, ils maintiennent le même niveau de marge ou de commission, ou est-ce qu'il y a un effort qui est fait et quel est le...
Ah non, ils maintiennent le même niveau de commission. Donc, tu as 20% de com. Donc, en gros, le chauffeur, il gagne 4 euros. Tu peux prendre le problème dans tous les sens. Quand tu dois aller chercher un passager, l'attendre et faire le trajet, si tu gagnes 4 euros avec le coût de ta voiture, enfin, honnêtement, ça ne fonctionnera jamais, quoi. C'est juste pas possible. Donc, effectivement, moi, je pense, on est la seule plateforme à défendre ça, à militer pour un encadrement des prix sur le secteur du VTC. Je dis pas qu'il faut fixer les prix comme les taxis, mais au minimum, faut mettre le contour. Voilà, le contour minimum. Peut-être même maximum, pour faire en sorte que ce soit sain pour tout le monde. Puis après, chacun se fait sa guerre dessus. Et puis s'il y en a un qui veut baisser les prix puisqu'il met des réductions, bah, y a pas de souci, mais il ne faut pas le faire payer au chauffeur.
On parle beaucoup de prix, mais quelle place du coup pour la marque? C'est quoi l'enjeu aujourd'hui?
Ouais, bah c'est, voilà, on est sur un marché de la commodité, enfin qui est plutôt une commodité. Mais ce qu'on peut se dire, c'est notamment si on avance vers une réglementation avec des prix, etc., ou si demain même on allait vers un marché du taxi, si on prend le modèle de base, c'est le taxi, le prix est réglementé, c'est-à-dire que toutes les plateformes de taxi ont exactement le même prix. Donc a priori, elles ont les mêmes chauffeurs. Si, alors sur le taxi, c'est un peu moins vrai, mais sur les plateformes VTC, les chauffeurs sont sur différentes plateformes. En plus, les prix sont globalement les mêmes. Donc au bout d'un moment, si on va de plus en plus vers ça, la seule manière de créer de la différenciation, c'est la marque.
Et l'expérience.
Mais si on a les mêmes chauffeurs, l'expérience risque d'être assez proche. Donc la marque devient finalement quelque chose d'hyper, hyper important. Donc aujourd'hui, on est sur un marché du VTC où il y a des must-have qui sont le prix, la fiabilité et la sécurité. La sécurité, globalement, il y a un enjeu. Hein. On a vu Uber, c'est over, etc. Mais globalement, on a tous les mêmes chauffeurs, donc c'est difficile de créer la différenciation là-dessus. Je pense que le niveau de sécurité est à peu près le même sur toutes les plateformes. La fiabilité, Uber, vu qu'ils sont plus gros, ils sont un peu plus fiables. On attend un peu moins pour avoir son chauffeur, ils sont plus proches, etc. Donc, la seule manière pour Hitch de créer de la différenciation sur les must-have, c'est le prix. C'est pour ça qu'on prend moins de commissions et qu'on est un peu moins cher. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on parle des must-have, le deuxième enjeu, c'est la marque. Et là, c'est créer des émotions. Et là, il faut réussir à créer des émotions positives côté passager et côté chauffeur.
Je me rappelle d'une boîte, je crois que ça s'appelait Colette, qui faisait des transports de femmes par des femmes. Alors, ils ont été très critiqués pour l'avoir fait. Mais ce que c'est aussi, dans, tu parlais de la sécurité, c'est pour ça que j'y ai repensé, c'est aussi par un suivi avec des offres de ce type-là qu'on peut arriver à créer de l'émotion ou de la réassurance.
Je voulais prolonger la question de Thomas, parce que c'est vrai que la sécurité, c'est un sujet qui peut être un peu tabou. Alors, je sais pas dans quelle mesure on peut en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu parfois des questions autour de... Ça peut exister aussi avec les taxis. Hein, d'une manière générale, quand on transporte quelqu'un dans une voiture, et ça peut être
ça existe
aussi
dans la vie, ouais.
Covoiturage longue distance. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être liées à des agressions? Est-ce que parfois il y a eu des débats ou des questions aussi sur, par exemple, de la vente de drogue à travers les plateformes ou peut-être aussi de la prostitution? Je sais pas. Est-ce que ces sujets-là sont tabous? Est-ce que vous arrivez à les circonscrire, à les mesurer? Est-ce que c'est juste des sortes de mythologies urbaines qui sont fantasmées?
Alors, rajoutons assassinat dans la boucle comme ça.
Merci.
Non, rien n'est tabou et le but c'est aussi d'en parler parce que si on en parle et justement pour les violences faites aux femmes, plus on en parle et plus en fait ça devient insupportable et c'est à partir du moment où c'est insupportable que je pense que ça disparaît et où les gens prennent vraiment conscience et font en sorte que ça disparaît. Donc non, nous on a plutôt une politique où si on a des sujets, pour le coup on est assez transparent dessus. Donc oui, il y a des enjeux, bien évidemment, à partir du moment où on met des gens en relation, il y a toujours des enjeux. L'objectif, en tout cas, en tant que Hitch, c'est de créer la plateforme la plus sûre possible. Je pense qu'on part avec un avantage vis-à-vis des taxis qu'on prend dans la rue parce que tout est tracé. Donc ça, déjà, ça aide quand même un petit peu. Mais l'objectif, c'est de voir comment, petit à petit, on crée de l'éducation côté chauffeur, on accompagne, on permet aux passagers de se sentir plus en sécurité, de partager leur trajet, d'avoir un bouton d'alerte, etc. etc. Le risque zéro n'existera jamais, mais l'ambition, c'est de le réduire au maximum. Et si jamais il y a un incident, d'être là, honnête, transparent et d'accompagner du mieux possible.
Et du coup, sur des services de chauffeurs, de femmes?
Alors, on ne l'a pas fait. On s'était posé la question deux, trois fois. Mais en fait, on est sur un marché qui est très masculin côté chauffeur. Donc, il y a probablement 95% de VTC qui sont des hommes. Donc, si on veut faire un service féminin avec des chauffeurs femmes, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de densité. Donc, on n'aura pas un chauffeur en 5 minutes. Ça devient soit plus cher parce qu'il faut payer l'approche, soit juste ça fonctionne pas et la plupart des utilisatrices ne veulent pas attendre une demi-heure pour avoir leur chauffeur ou payer deux fois plus cher.
Oui, parce que des fois c'est moins sécurisant dans la rue pendant une demi-heure d'attente.
Exactement.
Mais est-ce qu'il peut y avoir des actions spécifiques de Hitch pour aussi féminiser du coup le métier de chauffeur, de conducteur? Parce que c'est vrai qu'on parle d'impact social et d'une manière générale on en parle souvent dans la tech. C'est aussi des milieux très masculins. Mais on pourrait se poser la question parce que, bon, moi, ça m'arrive quand même de prendre des VTC quand je vois quand même quelques chauffeurs femmes. Je me dis que ça peut être aussi un enjeu économique et social pour pouvoir le développer.
Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas évident parce que le marché du VTC est quand même assez nocturne aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas à l'aise finalement de conduire et de transporter des jeunes et des hommes le soir un peu éméchés, etc. Donc, il y a un sentiment de sécurité aussi côté chauffeur. On parle souvent des passagers, mais en fait, les chauffeurs peuvent aussi être en danger dans la voiture. Malheureusement, on a eu plus d'incidents côté chauffeur que côté passager. Ouais. Donc, c'est forcément aussi un marché de la nuit. C'est forcément un peu compliqué. Après, il y a le marché de la journée avec le B2B, etc., où là, c'est probablement plus simple pour une femme de se projeter. Aujourd'hui, c'est un marché qui n'attire pas beaucoup les femmes, en tout cas. Ça, c'est un constat. Comment on peut changer ça, je sais pas, mais ce serait une bonne réflexion. Et si on a des pistes, avec plaisir pour avancer.
Tu as parlé du marché B2B en journée, sur Hitch aussi?
Nous, on le fait pas beaucoup, mais je parlais du marché VTC en général.
Ok. Ouais.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Teddy, pour cette première partie de ton podcast 40 nuances de Next. On a vu l'entrepreneur avec enthousiasme, mais aussi, je trouve, beaucoup de franchise et de transparence sur les difficultés que tu as rencontrées, mais aussi l'énergie et la créativité pour transformer, pivoter et avoir un regard qui projette Hitch vers les mobilités urbaines de demain. Donc, il est temps de passer à la partie plus privée et perso de Teddy Pellerin, l'homme derrière l'entrepreneur.
40 nuances de Next.
Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.